Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans le podcast La Photo Aujourd'hui,
la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préférée, ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour.
Apprendre pour photo.
Aujourd'hui, je suis à Rouen avec Thomas, que je ne vous présente plus, c'est terminé, et avec Louise. Bonjour Louise, merci de nous accueillir.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 26 ans, j'habite à Rouen depuis 5 ans et je fais de la photo. Depuis un moment déjà, j'ai étudié les arts plastiques à Paris et j'utilise la photo principalement dans mon travail depuis un moment.
T'as commencé quand la photographie après ? C'est un truc que t'as commencé genre ado comme tout le monde et t'as continué dans tes études après ou t'as...
Alors j'ai pas vraiment de moment où j'ai commencé la photographie, j'ai toujours un peu eu des appareils photo chez moi, enfin, c'est un truc que j'ai toujours connu. Enfin, moi j'ai grandi dans les années 90-2000 où il y avait des appareils photo. Bah, facilement, c'est pas un truc qui était incroyablement...
Des appareils argentiques, du coup, c'est ça ?
Oui et non. Ah. Ouais. C'est-à-dire que le numérique, ça s'est quand même apparu assez vite. Je crois que mon premier appareil photo, c'était un Fisher-Price en plastique bleu, là, que tout le monde a un peu eu.
Que tu utilises encore ?
Non, je sais plus, je sais pas où il est passé. Mais voilà, j'ai une famille où on a pas mal voyagé, il y a beaucoup de voyageurs dans la famille, et donc une utilisation de la photo un petit peu amateur, mais quand même courante. Voilà, donc j'ai pas vraiment de moment où j'ai commencé la photo.
Il y a une bascule peut-être, un moment où tu t'es dit, tiens, c'est plus que juste du souvenir et du voyage, et t'as voulu plus creuser ça et en faire une pratique artistique.
Oui, mais j'ai pas vraiment de moment charnière où c'est arrivé. C'est juste que j'ai commencé à en faire de plus en plus,
Oui, ça arrive progressivement, finalement, un peu naturellement. Quoi.
Oui. Oui.
Ok. Du coup, c'est un secret pour personne. J'ai vécu une dizaine d'années à Rouen. C'est comme ça que j'ai découvert le travail de Louise. Des photographes à Rouen, il y en a beaucoup, mais il y a un projet que t'as fait qui s'appelle Rotomagus. Et en fait, il m'avait plu parce que je trouvais que c'était un projet photo qui avait réussi à mieux le capter l'esprit de la ville, en fait. Parce que, alors, vous le savez peut-être pas pour ceux qui n'ont jamais été, mais Rouen, c'est une ville très médiévale avec des rues pas droites, très anciennes, assez pluvieuses et sombres, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent dans ce travail-là que t'as fait Rotomagus. C'est pour ça que Laurent m'en a même offert un tirage pour mon 30e anniversaire qui trône dans mon bureau. Et on n'est pas là par hasard. Et voilà, j'aurais bien aimé que tu m'en parles un peu plus de comment t'étais venu l'idée, comment tu l'avais fabriqué, et jusqu'à la fin, parce que je sais que t'as fait beaucoup de travail sur les tirages, tout ça. Donc, un peu raconter comment on arrivait à avoir ce projet-là dans mon bureau.
Mmh. Ben, c'est vrai que moi, je suis pas du tout rouennaise. Je suis arrivée à Rouen un peu par hasard, il y a 5 ans maintenant. Je connaissais pas du tout la ville et j'ai eu un coup de cœur incroyable pour cet endroit. Je suis jamais repartie en fait, hein, vraiment. C'est une ville que je trouve magnifique, qui est médiévale certes, mais qui est en fait chargée d'histoire. Hein. Il y a vraiment, c'est des couches d'histoire superposées. On a 3000 ans d'histoire sur un tout petit territoire. Moi, je suis arrivée à Rouen avec une pratique déjà de la photo, plutôt sur le paysage. Et en fait, ce travail-là sur le paysage, l'environnement, en fait, c'est adapté. Mon nouvel environnement qui a été Rouen. Quand je suis arrivée, j'avais un travail qui était déjà entamé sur le paysage, avec alors je vais pas dire un travail abouti, mais un langage un petit peu affirmé quand même. J'avais trouvé mes paysages verticaux, enfin c'est quelque chose que j'ai fait pendant assez longtemps. C'est le dispositif que j'avais pour parler du paysage, pour parler de notre relation au paysage. Et quand je suis arrivée à Rouen, j'ai en fait tout simplement calqué ce dispositif-là, mais pour parler de la ville. Donc ça s'est fait très doucement et avec une transition très, très 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 fluide. C'était des photos comme j'aurais pu faire une photo de paysage, mais dans la ville. Avec le même noir et blanc, avec la même approche. Et puis au fur et à mesure des années, en connaissant la ville et puis en la arpentant un petit peu, il y a d'autres choses qui sont arrivées.
Qu'est-ce que tu appelles le paysage vertical ? C'est le format que tu utilises ?
Oui. Alors, c'est un travail que j'ai commencé quand j'étais à la fac sur le paysage. Et c'était l'idée de voilà, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on représente un paysage tout en parlant de ce qu'il y a derrière en fait. C'est, moi, mon mémoire, c'était l'envers du paysage. Donc pas seulement le paysage à l'envers, mais aussi qu'est-ce qu'il y a un petit peu le reflet. Ça, c'est marrant, l'idée du reflet aussi, voilà, le reflet que le paysage a sur nous et qu'on a sur lui. Et c'est un travail qui s'est continué après à Rouen.
Ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre Comment t'as fabriqué ces images? Parce que donc vous allez les voir à l'écran, c'est pas des photographies. Comment? Elles sont assez, entre guillemets, sensibles, c'est-à-dire elles se rapprochent. Moi, je les ai aimées parce qu'elles se rapprochaient de la sensation que j'avais dans la ville et en la parcourant, voilà. En liétant. C'était assez sensible,
je trouve. C'est une série qui a été faite en marchant dans la ville, en la traversant, vraiment. Et comment est-ce qu'on peut traduire ce sentiment de traverser un endroit ou de l'habiter et de représenter une ville, enfin, représenter un endroit sans juste prendre une photo ni d'un bâtiment emblématique, ni d'une rue.
Du coup, tu as mélangé des photos, parce que vous allez les voir à l'écran, les images, elles ont un look, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, un visuel très particulier, en fait. Par exemple, chez moi, j'ai la photo de la cathédrale Saint-Ouen, Saint-Maclou. J'ai Saint-Maclou chez moi, et en fait, on a l'impression qu'il y a soit plusieurs images qui ont été mises dessus, alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as fait à la chambre en tirant, c'est quelque chose que tu as fait sur ton ordinateur et que tu as fait tirer, et je sais pas quel papier tu as fait tirer, je sais que tu as fait des tests, tout ça.
Alors, justement, c'est une série qui est toujours en cours, hein, que j'ai commencé en 2017. Et donc qui a vraiment évolué. Et au début, comme je te disais, c'était vraiment mon approche de la photo de paysage, que c'est juste calqué à la photo de Rouen. Donc je recherchais la verticalité, je recherchais du contraste, je recherchais vraiment mon noir, mon blanc d'un côté, comme j'avais dans mes paysages. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de mon travail, j'ai découvert d'autres dispositifs. Donc au début, il y a eu le reflet. C'est un peu bête, hein, mais quand on marche dans Rouen, il y a des flaques d'eau.
Partout.
On voit des choses à l'envers.
Tout le temps.
Je ne fais pas tout le temps, c'est pas vrai, mais c'est une façon de voir la ville aussi, quoi. C'est une approche. Et après, d'autres dispositifs. Donc, la technique dont tu parles, c'est une technique de multi-exposition, qui est une pratique qu'on voit souvent, hein. C'est quelque chose qui est assez courant dans la photo, mais à laquelle je ne m'étais jamais spécialement intéressée. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire la multi-exposition. C'est plutôt dans ma recherche de comment est-ce que je vais traduire cet endroit qui a 3000 ans d'histoire et qui vibre et qui bouge. Et
comment le mettre
voilà,
sur le papier.
Comment est-ce que je vais traduire ça? Et c'est une recherche, c'est venu après.
Alors tes recherches, tu peux peut-être nous en parler, parce que je crois qu'il y a un carnet dans un coin.
Ah, il y a plusieurs carnets, ouais. C'est,
comment tu recherches d'ailleurs, bah, justement
Comment je recherche? Alors moi, j'ai pas fait d'école de photo. J'ai pas vraiment appris la photo. Par contre, j'ai fait des études d'art plastique et de théorie esthétique. Et la recherche à l'université, c'est 90% du travail, hein, vraiment. C'est qu'on fasse de la photo, qu'on fasse de la peinture, la recherche, c'est tout ce sur quoi on se base, ce dont on se nourrit pour arriver à une pratique personnelle et aussi des choses cohérentes. Et voilà, quoi. On ne fait pas juste des photos de rue, on parle... Quand on parle de la rue, on parle de l'environnement, on parle des gens, enfin voilà. J'ai pas vraiment de... C'était un exemple parmi d'autres, mais voilà. Et donc, Rouen, bah, j'ai fait des recherches sur les murs, sur les valeurs de gris, forcément. Hein, quand on se balade dans Rouen, il y a beaucoup de gris, beaucoup de noir et blanc. Voilà. J'ai pas mal de petits carnets comme ça, où c'est des mélanges aussi de photos, mais d'autres techniques. Alors, ça, c'est une photo d'archive. Et c'est justement, c'est comme ça, je l'ai imprimé deux fois de suite, sans faire exprès.
Ah, et c'est comme ça que tu as vu ce...
Tiens, elle vibre, elle est floue, et voilà.
C'est un peu un accident aussi.
Voilà. Sachant que le flou était déjà là depuis un moment, et voilà. Et en fait, la recherche, c'est vraiment... pour moi, c'est de la magie, parce que tu te rends compte, tu peux ouvrir un carnet que tu as fait il y a 5 ans, et te dire, mais c'était déjà là, en fait. Le travail que tu fais maintenant, il était déjà là il y a super longtemps, de par les lectures, de par des petites choses que tu as... qui t'ont marqué.
Et ta recherche, elle se nourrit d'autres choses que de recherche visuelle, je sais pas, d'autres. Enfin, il y a aussi des photographes qui t'ont inspiré, des films, des
oui,
trucs.
Oui, beaucoup de lectures, quand même, beaucoup de lectures en esthétique, en histoire de l'art, en philosophie en général, un peu de cinéma, un peu d'art visuel, voilà. J'ai pas vraiment de. Enfin, si, on a tous des influences, mais je pense que la première série de photos qui m'a marquée. C'est le travail de Hiroshi
Sugimoto.
La première série de photos que j'ai vues de lui, c'était les cinémas, des photos de cinéma.
C'est une série qui s'appelle Theaters, je crois.
Oui. Donc c'est des photos d'écran, en fait, de cinéma au théâtre, avec un noir et blanc magnifique en pose longue. Et je me dis, ce mec-là, il a réussi à photographier un moment, un temps...
Un film, en fait.
Il arrive à mettre un film. Et c'est un artiste, en découvrant son travail, qui a des séries de choses totalement différentes et qui a une cohérence dans tout son travail, alors qu'il parle de choses très très différentes. Ça m'a beaucoup marqué.
Maintenant que tu le dis, ça m'étonne pas que t'aimes bien ça, Tsujimoto.
Ouais. Exactement, c'est toi.
Maintenant que c'est sorti, ça
paraît vraiment l'influence, ça paraît évident.
Bah, surtout, ouais. Je pense à Seascapes, en fait.
Oui,
Seascapes,
oui, oui.
La vision, voilà, de la mer, ouais, etc. Sur ta vision, ton paysage.
Sur ces paysages-là, oui. Par exemple, c'est après aussi qu'on... Une fois que tu as ton travail enclenché, que tu trouves d'autres références. Par exemple, moi, c'est après avoir fait ces monuments un petit peu flous en multi-exposition, on m'a dit, bah tiens, regarde Corinne Vionnet, qui utilise cette technique-là, mais pour parler de façon de parler de choses totalement différentes. Voilà. Et sinon, beaucoup de peintures, Soulages, le noir, voilà. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Voilà.
Ok. Du coup, j'ai envie de rebondir sur... parce qu'avant, enfin, il y a 5 ou 10 minutes, tu parlais de un petit peu la jeunesse. Déjà, avant ce projet à Rouen, quand tu avais commencé tes paysages verticaux, et tu parlais de ton mémoire, dont je ne me souviens plus du titre exact, mais tu parlais des reflets du paysage sur soi et de soi sur le paysage.
Oui. Alors, c'est marrant parce que en fait, c'était l'envers du paysage.
Ouais, c'est l'envers du paysage.
Et l'idée de reflet, elle est venue à la fin de ce travail-là.
Okay.
Et le travail du reflet de la flaque est arrivé à la fin, en fait. C'est, oui. Voilà.
Mais ce qui m'intéressait, c'est l'idée de reflet plus au sens figuré,
oui,
tu vois. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu qu'est-ce que ça reflète de toi aussi, cette manière de bah déjà à la base tes paysages, parce que c'est quand même une manière assez particulière de voir le paysage, tu vois. Et derrière aussi, ce que ça, la manière dont ça a évolué sur Rouen. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le côté au-delà du côté visuel, le côté peut-être plus personnel?
Alors, je pense que ces paysages verticaux, c'est aussi les rencontres que j'ai eues, les professeurs que j'ai eues. J'ai beaucoup étudié l'art chinois, l'art japonais, l'art coréen. Et j'ai découvert le flou, j'ai découvert le noir et blanc, j'ai découvert le paysage qui est non pas horizontal comme en Occident, mais vertical. Et moi, c'est mon premier bouleversement de voir les choses autrement et les montrer autrement. Pour nous, un paysage, j'ai toujours vu un paysage horizontal au musée. Et là, pour la première fois, on me montre que bah non, c'est aussi autre chose. Voilà. Et ça s'applique à tout travail, hein, je pense. Montrer autrement, mais montrer d'une autre façon. D'ailleurs, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est des Rouennais qui m'ont dit « J'aime ton travail parce que tu m'as montré la ville que je connais par cœur, mais de façon un peu différente. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas mal.
Vous savez quoi mettre en commentaire? Vous êtes Rouennais et vous découvrez les photos de Louise. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de tes tirages? Parce que je sais que t'en fais pour les expos, t'en fais que t'en,
oui,
vends en ligne, c'est comme ça que ça arrivait chez moi. Comment ça se passe? Est-ce que il y a des papiers que t'aimes bien, que t'aimes pas? Quelle technique de tirage t'aimes bien? Parce que on en a déjà parlé, tu utilises des mots assez compliqués à plein de lettres que je connais pas forcément, donc c'est l'occasion d'en parler. Non, c'est pas juste de l'impression gênante, tu fais plein de choses.
Plein de choses. Je viens des beaux-arts, entre guillemets, enfin de la peinture et du dessin. Et du coup, j'aime pas le papier photo. Désolée. Ça me plaît pas encore, en tout cas pour l'instant. Et j'utilise un papier aquarelle, un papier arche en fait, un papier de tirage d'art.
D'accord.
Et en fait, en arrivant à Rouen, j'ai rencontré un imprimeur de Rouen, avec qui je travaille uniquement, qui me fait tous mes tirages. Et donc c'est des...
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Thierry Morin, c'est l'atelier digital, cool, qui est à Rouen. Et donc c'est des papiers qui sont... ultra fragile déjà, mais qui ont déjà une profondeur pour les noirs, moi qui m'appelle, et c'est mat, c'est ça trompe un petit peu parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est du dessin même à cause
de
ce papier.
On peut se poser la question.
Ouais. Voilà, on m'a déjà demandé si c'est du fusain par exemple.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vas jusqu'à questionner les gens sur le médium, c'est que t'as réussi techniquement quand même quelque chose qui est...
On n'est plus sur argentique ou numérique, on est sur photo ou dessin.
Ça, ouais.
La frontière est plus loin.
Alors justement, moi, la querelle un peu argentique numérique, ça ne m'intéresse pas trop, parce que j'ai commencé à l'argentique, j'avais la chance d'avoir accès à un labo quand j'étais à la fac, ce qui est plus compliqué maintenant. Et donc, j'utilise beaucoup le numérique pour des raisons pratiques. Voilà.
Et les deux te plaisent autant, t'as pas...
Alors, je pense que comme beaucoup de photographes, j'ai quand même une préférence pour l'argentique, parce que bah, c'est le... C'est l'objet, c'est la chimie, c'est la magie, voilà, c'est un truc qui restera toujours là, mais je peux travailler au numérique sans problème.
Oui, puis d'autant plus que ton objet final puisque l'épisode précédent de cette série s'appelait « La photographie est un objet », donc ça, on rebondit bien là-dessus, tu vois. Ton objet final comme tu le disais, si on peut penser que c'est peut-être pas de la photographie, au final, que tu utilises de l'argentique ou du numérique à la base, comme tu es suffisamment loin pour que ça...
La photographie, elle existe une fois qu'elle est tirée et qu'elle est là. Et le fait d'avoir un papier comme ça, je peux la toucher et ça la concrétise aussi un petit peu. Oui.
Et tu fais que du noir et blanc ?
Alors non.
J'avais déjà la réponse. Mais...
Certains
auraient eu la question. Donc.
Je ne faisais que du noir et blanc jusqu'à il y a peu. Donc c'est vraiment l'année dernière, c'était une année qui était très chargée, qui était superbe parce que j'ai eu plein de rencontres, plein d'opportunités, et j'ai commencé la couleur. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, avec des photographies d'eau. C'était pour une expo qui s'appelait Immersion, où j'ai fait des photographies de reflets d'eau. Mes nouvelles séries sont uniquement en couleur. Voilà. Donc je pense que je reviendrai en noir et blanc parce que c'est quand même quelque chose qui a toujours été là et qui est un peu intime, mais pour l'instant, c'est de la couleur.
Immersion, est-ce que tu peux nous en parler ? C'était quoi l'intention derrière ? Qu'est-ce que tu voulais raconter avec ces images en dehors du travail graphique que je trouvais hyper cool ?
Alors justement, c'est une série qui est totalement expérimentale, qui n'a pas eu spécialement de fond de recherche préalable. J'étais à un endroit à un moment, j'ai fait des photos parce qu'il y avait des conditions superbes. C'était dans le Cotentin. Marée basse, pendant des grandes marées.
J'ai ma belle marée,
oui,
moi.
Voilà.
Je le savais.
Et en fait, c'est une série au numérique. Quand j'ai importé mes images dans Lightroom pour les visionner, comme elles étaient en RAW, elles sont mises en couleur. Et là, j'ai fait « Waouh, c'est trop beau, enfin, c'est bizarre, je ne m'y attendais pas. » Et du coup, j'ai un peu tâtonné, j'ai un peu cherché dans la couleur, ce que je n'avais jamais fait avant, et... ça m'a beaucoup plu. Mais pour me rassurer quand même, c'est une série où... donc c'est une série avec que des... c'est des reflets de lumière dans l'eau, avec du sable qui bouge. Et on retrouve ce qu'on appelle des pareidolies.
Tu reconnais un visage dans...
C'est des formes familières qu'on reconnaît dans des... lors de situations un peu abstraites. On peut voir, par exemple, dans un nuage ou sur un mur. Voilà. Donc, je me suis un petit peu agrippée à cette idée-là parce que c'était un fil conducteur qui était assez intéressant. Mais voilà. Pour l'instant, je n'ai pas poussé plus cette série-là, mais ça m'a permis d'accéder à la couleur. Mmh. Et en fait, d'utiliser la couleur, voilà, maintenant, c'est dans ma palette, enfin, c'est dans mes outils pour l'utiliser dans mes nouveaux travaux et ce dont je veux parler.
Et peut-être, du coup, s'il y a des formes qu'on reconnaît dans les images, est-ce qu'il y aurait une image que tu pourrais nous présenter et nous expliquer ce que toi, tu as vu dedans et comment tu l'as construite ?
Oui. Bah alors, c'est un peu particulier parce que ce sont des pareidolies qui sont assez macabres. Alors, à part celles-ci qui sont assez abstraites, mais qui, justement, m'ont plu, c'est les deux premières que j'ai sorties, en fait. Je fais, la couleur, elle est trop bien. Et en fait, dans toutes les autres, il y avait des espèces de, tu vois, de crânes.
Ah oui, on voit.
Non, celle-là aussi, tu vois,
des têtes de mort. Celui-ci à l'envers, je le voyais, donc il est assez clair.
Et j'en ai pas d'autres ici, j'en ai une derrière.
Et du coup, comment tu passes beaucoup de temps à photographier l'eau jusqu'à temps qu'il y a... Est-ce que tu la vois avant
ou juste... Non, ça je l'ai vu au tirage, enfin je l'ai vu au développement en numérique, et il y en avait sur beaucoup d'images. Voilà. Et c'est une série qui m'a permis aussi... de faire autre chose au niveau du tirage. J'ai essayé de faire des... J'ai fait des très très grands tirages en très très grand format sur du tissu pour avoir une recherche sur la transparence. Peut-être que dans quelques années, ce sera un peu plus clair pour moi, mais voilà. J'étais attirée par la transparence, mais en même temps, c'est aussi un peu voir à travers, voir derrière. Je pense que c'est pas non plus tout à fait anodin.
C'est quelque chose qui est constant dans son travail, ça, du coup, la recherche de l'envers, du reflet, de la transparence.
Oui.
C'est intéressant de voir que comme un projet qui pourtant esthétiquement ressemble pas du tout au précédent finalement. Comme par contre conceptuellement il y a des liens qui se font et puis il y a toujours cette recherche aussi sur l'objet quoi. Et là je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que comme tu es en cours que rien n'est sûr, tu nous dis des choses et peut-être que dans un an ça sera différent.
Oui.
La version 2 de l'interview dans 2 ans.
Peut-être.
Quand tu seras plus abouti, que tu auras abandonné un truc et puis un autre. Et puis, c'est intéressant de voir quand c'est en construction aussi. c'est intéressant que les gens sachent que c'est pas... Tu te réveilles pas un matin en disant « je sais que je vais faire exactement ça ».
Non, non, justement, oui. Voilà, ça, c'est assez rare, oui. Et en fait, la recherche préalable, elle nourrit ton travail photo et c'est aussi sur le terrain, en fait, que tu délimites la suite. Hein. Enfin, c'est... Il y a des choses qui sont parfois vraiment, vraiment frappantes. Enfin, j'ai décidé de faire des photos de toujours Normandie, de falaises, ouais. De craie. Alors, je suis partie très bêtement de la cathédrale qui est ancrée, ce matériau que j'aime bien. Je vais aller essayer de le retrouver vraiment dans son milieu naturel. Donc, les falaises de craie qu'on connaît tous, hein, d'Étretat, de Senneville, de Fécamp. Et donc, je suis allée photographier ces falaises-là. Qui sont sortis en couleur aussi, j'ai pas continué en noir et blanc, et je me suis rendu compte quelques semaines après ce dont je parlais vraiment. J'ai décidé de travailler le rouge, la couleur, couleur assez particulière. Et là, on est très très loin des premiers noirs et blancs, et voilà, c'est un peu
mon... Pourquoi le rouge, et du coup, quand tu dis que tu t'es rendu compte de quoi tu parlais avec ?
C'est un travail qui n'était pas prévu dans mon planning, on va dire. Et... C'est un filtre rouge que j'ai appliqué par-dessus. Et en fait, au début, j'étais persuadée que ça parlait de mes préoccupations actuelles, l'écologie surtout, un peu l'état d'urgence, qu'est-ce qui se passe dans notre planète, voilà. Et il y avait ces gros blocs de craie qui ressemblent un peu à un étal de boucher, qui ressemblent à du sang. C'est un peu dur comme série, hein. Même pour moi, c'est un peu particulier. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, mais des semaines après, en fait, j'ai eu une série qui s'appelle Teratoma, parce que j'ai eu un teratome, ce qu'on appelle un teratome, c'est une tumeur ovarienne. Donc un cancer de l'ovaire il y a quelques années qui est guéri totalement. Et je me suis rendu compte... quelques semaines après, en fait, c'est des cailloux qui saignent. Il y a des analogies un petit peu à de la violence obstétrique. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Voilà. C'est pas quelque chose que je vais. C'est une série que je vais exposer cette année parce que j'ai reçu une bourse pour développer ce travail, justement, de la ville
de Rouen. C'est quand et où tu vas l'exposer ?
Alors, je ne sais pas quand exactement. Ce sera cette année normalement et à Rouen.
Dans quel lieu, tu sais pas ?
Je sais, vu que j'ai pas eu la confirmation, je sais pas si on peut lire.
Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui voudraient voir l'exposition, on communiquera.
Voilà,
Dès qu'on a la date, on vous la transmet.
En tout cas, ce sera à Rouen. Voilà. Et du coup, là, tu te poses aussi des questions sur. Quand on fait une exposition, quand on monte une exposition, jusqu'où est-ce que je vais en parler ? Qu'est-ce que je vais en dire ? Est-ce que c'est vraiment important ? Alors, moi, je pense que oui, parce que si je m'en suis rendu compte, c'est que c'est pas anodin. Est-ce qu'il faut le jeter un petit peu dans la figure des gens, ou est-ce que ça peut être quelque chose d'un petit peu caché, parce que ça reste intime ? Et en fait, c'est une série qui peut aussi parler à beaucoup de gens pour...
Peut-être pas la seule à avoir traversé un truc difficile comme ça, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent se retrouver là-dedans.
Oui, je pense que c'est...
Moi, ce que j'aime bien dans les... Souvent, quand je vais ouvrir un livre photo, par exemple, même quand si je regarde une expo et je vois que le travail, il est un peu... le sens n'est pas évident parce que parfois c'est un peu. C'est assez clair, il n'y a pas de mystère. J'aime bien plutôt d'abord regarder les images et après voir le sens qu'a donné parce qu'il y a un côté. Tu vois, d'abord tu as ton interprétation visuelle à toi, ce que tu y retrouves, et ensuite tu vois ce qu'a retrouvé l'artiste dedans. Et c'est intéressant de voir que des fois ça peut être la même chose et tu dis ok, et des fois ça peut être complètement différent, mais c'est aussi intéressant de voir que tu peux en sortir plusieurs sens.
Oui.
Et au final, je sais pas, je pense que. Moi ça m'intéresse toujours de savoir ce que l'artiste a mis dedans, mais je préfère souvent le savoir après. Enfin, en tout cas, sur des travaux qui sont un peu plus. Mystérieux, on va dire.
Oui, ouais, je suis d'accord.
Dans un sens assez large, tu vois. J'aime bien savoir, mais après.
Parce que tout ça, c'est déjà là dans le travail de chacun, en fait. Hein. Toute notre histoire personnelle, les résiliences de chacun, elles sont déjà dans le travail. Voilà. Après, jusqu'où est-ce qu'il faut le montrer, on verra.
Et c'est intéressant que là, t'aies cru que ça parlait d'autre chose et tu t'es rendu compte après. Je trouve que c'est toujours intéressant quand le sens émerge du travail plutôt que l'inverse. Parce que c'est que juste tu fais quelque chose, tu sais pas trop pourquoi, et tu finis par comprendre en fait d'où ça vient. Et il y a toutes ces parts d'inconscient qui ressortent dans le travail. Et il n'y a pas plus personnel que ça au final.
Non, c'est vrai que c'est.
De faire quelque chose sans même savoir pourquoi on le fait et finir par se rendre compte pourquoi ensuite. Parce que tu peux pas le. Ça peut pas être faux quoi. Tu t'en es rendu compte après, tu vois, il n'y a pas plus vrai que ça.
Mais je ne me suis pas dit un matin, tiens, j'ai envie de parler de ça, c'est important pour moi, parlons-en. Voilà. Peut-être que c'est mon cerveau qui l'a fait tout seul.
Peut-être que tu avais besoin de le faire en
fait. Peut-être, oui.
Moi, personnellement, tu vois, enfin, je te conseille, t'en feras ce que tu veux. Mais moi, je suis pas persuadé que l'art, tu vois, soit forcément fait pour être facile et accessible et joyeux. Et tu vois, des fois, il y a des choses qui sont dures et je trouve ça bien d'en parler aussi. Bah, tu vois, d'avoir, que ce soit varié, comme t'as des chansons tristes, comme t'as des films sur des drames et compagnie. Tu vois, genre, j'y pense parce que je dois le regarder bientôt, mais la liste de le revoir bientôt, je l'ai déjà vu. La liste de Schindler, c'est un film qui est magnifique, mais qui est extrêmement dur en même temps. Mais pourtant, c'est un sujet qui est important, qui est important pour les gens qui l'ont fait et compagnie. Je trouve pas que ce soit forcément
sans secouer. En fait, ça peut être une bonne chose.
Oui, oui. Je pense que j'ai un travail sombre depuis toujours, depuis le début. Et voilà, quelle part de d'autobiographie je vais mettre dedans. Voilà, c'est. Mais en tout cas, c'est toujours la suite de cette recherche parce que ce rouge m'a amené à créer un nouveau dispositif de rouge, vraiment de filtre rouge que j'applique sur beaucoup de photos pour une nouvelle série l'année prochaine, les années qui vont venir, qui s'appelle Demain et qui parle de ces problèmes, enfin de ces enjeux environnementaux qui moi me touchent comme beaucoup d'autres personnes.
Ce filtre rouge, juste, c'est quelque chose que tu mets sur l'objectif, c'est quelque chose que tu fais après, que tu peux régler comme tu veux.
C'est quelque chose que je fais après. D'accord. Oui, voilà. Il faut avoir des conditions de lumière particulières, une légère surexposition pour d'accord. avoir beaucoup de blanc, et ce blanc sera en rouge, et voilà. Et là, pareil, c'est un peu de la magie, et ça donne tout un autre sens à l'image. Et du coup, c'est aussi la première fois que je rentre dans des images un peu de fiction. Ce sont les premières images de gens, de sujets, en fait.
C'est hyper particulier comme ambiance de photographie. C'est quoi ? Oui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est des amis à toi qui t'a demandé d'être là à ce moment-là ?
Alors, le personnage principal, en fait, entre guillemets, de cette série de photos, j'en ai sorti deux seulement, mais c'est une... j'en ai pris plusieurs. C'est mon petit frère. Enfin, mon petit grand frère, parce qu'il est très grand. Mais parce que j'étais avec lui ce jour-là, Et pareil, c'est pas des photos que j'ai décidé de faire. C'est pas une photo que j'ai mise en scène toute seule. Et le reste des personnes, ce sont des passants, des gens qui passaient là.
Donc c'était dans une forêt, dans un parc
C'était dans un parc de château. Château de Chaumont-sur-Loire, pour être plus exact. Qui est un lieu aussi où, un peu familial, où je vais souvent avec ma famille.
C'est intéressant parce que quand on voit l'image, on a l'impression que ça a été pris dans une forêt en train de brûler.
Oui,
c'est
oui.
C'est la première chose qui me vient à l'esprit, là, comme ça, avec beaucoup de brume, on a l'impression de... Ouais, du coup, je pense que c'est pas de la brume, c'est le filtre rouge qui produit cet effet-là, un petit peu.
Oui, oui. Et bien, par exemple, là, on a vu des images terribles de l'Australie il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que cette ambiance-là, c'est une ambiance qui est très lourde, qui est très anxiogène. Et c'est tout à fait ce dont je veux parler. L'espèce d'état... de solastagie, on appelle ça comme ça.
Solastagie.
Oui, la solastagie, c'est l'angoisse liée aux changements environnementaux. On peut ressentir une espèce d'angoisse lourde qui est toujours un petit peu là. Et voilà, et ça, c'est ce que je veux traduire. Et donc, je retourne dans du paysage, des paysages un peu futuristiques, un peu abstraits. C'est un paysage abstrait comme ce que je pouvais faire il y a 5 ans, mais c'est tout à fait différent. Quoi.
C'est que ta pratique a évolué, c'est plutôt.
Voilà.
Et c'est toujours avec le même papier que tu fais ça.
Alors, là, c'est mes recherches, donc oui. Je ne sais pas si ce sera ce papier-là. On verra.
C'est encore, ouais.
Et puis, c'est un projet que j'ai envie de monter tranquillement, parce qu'il est important. Non pas que les autres projets ne soient pas importants, mais disons que là, j'ai un petit peu plus de matière à rechercher. Je sais vers quoi me tourner, j'ai orienté mes lectures et...
Oui, tu as déjà des bons indices de pistes à suivre, mais que d'autres, c'est peut-être encore
sur l'anthropocène, sur même l'écoféminisme par rapport au travail que je pouvais faire avant, enfin à la série qu'on a vue avant. Et voilà. Et j'aimerais bien en profiter pour créer un projet peut-être un petit peu plus transdisciplinaire, explorer autre chose avec d'autres personnes, peut-être de la musique, de l'installation. Enfin.
D'ailleurs, en parlant de transdiscipline, je vais poser la question qui fâche, qui va te faire te questionner peut-être. Tu travailles, tu fais les beaux-arts, tu fais beaucoup de recherches, etc. Tu as un gros travail sur la matière. Du coup, artiste plasticienne, photographe plasticienne.
Alors,
qui est Louise Bourneau de Tir ?
J'ai pas fait les beaux-arts. J'étais à la fac d'art plastique, à Paris 1.
D'accord.
Et donc, c'est quelque chose de très très différent des beaux-arts, enfin, j'ai l'impression. Mais j'ai vraiment eu des super profs. Pas forcément photographe d'ailleurs, mais des profs qui m'ont encouragée dans la photo, qui m'ont dit oui, toi c'est de la photo, tu continues là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est ton médium, c'est ton outil, et qui m'ont encouragé là-dedans, qui m'ont orienté vers. Qui m'ont pointé au moment où j'avais pas spécialement le recul nécessaire pour voir où j'allais.
D'un point de vue extérieur.
Oui, voilà. Et du coup, voilà. S'il fallait se mettre dans une case, je dirais que je suis plutôt artiste plasticienne, enfin photographe plasticienne, parce que j'utilise la photo comme outil, mais je suis pas photographe. C'est un peu spécial parce que il y a toujours une part d'illégitimité à se dire photographe, parce que j'ai l'impression que c'est pas mon métier, enfin que je suis pas reporter, je suis pas. Je peux pas créer une image pour quelqu'un ou même pour moi, mais
ça dépend de la définition qu'on a de la photographe.
Oui. Voilà. Donc parfois, je parle avec des photographes et j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue, quoi, du tout.
Ça dépend à qui tu parles. Ça m'arrive souvent aussi.
Je rencontre quand même beaucoup de gens qui utilisent la photographie dans un large spectre et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on s'apporte mutuellement des choses. Mais voilà, c'est sûr que la photographie de trucs flous ou à l'envers, parfois ça peut...
Ça, je pense peut-être que les gens qui sont partis de la photographie, ils ont peut-être tendance à rester peut-être un peu plus attachés au... Ils ne vont pas arriver au point où se demander si leur photo c'est une photo ou pas.
Oui.
Ils vont peut-être vouloir rester dans la certitude que c'est une photo.
Oui.
Et comme toi tu parles de l'art plastique, au final pour toi ça importe peu.
Peut-être.
Parce que tu vas avoir un objet final et que les gens pensent que c'est une photo ou pas, c'est pas forcément ton premier.
Oui.
Ta première préoccupation, tandis que les gens qui parlent de la photo, c'est peut-être ça, et c'est peut-être là que se fait la frontière. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Hein.
Non, je pense que t'as raison. Enfin, l'outil photographique, enfin, le dispositif photographique, c'est pas un truc dont je parle particulièrement dans mon travail. Mais justement, à la fac, j'ai pu étudier le travail de d'autres artistes, enfin, d'autres photographes plasticiens. Par exemple, le travail de Estelle Lagarde, qui m'a beaucoup marquée. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une photographe française que j'ai pu rencontrer d'ailleurs depuis. Et elle est photographe plasticienne, mais elle ne fait pas forcément des photos ni abstraites, ni... Enfin, je ne sais pas comment expliquer.
Non, c'est tombé sur le nom que je ne connais pas.
Tu veux dire que son travail est assez figuratif et...
Il est assez figuratif. Il utilise quand même des dispositifs de long temps de pause, de déplacement avec des modèles.
Comme plus des choses très photographiques finalement.
Oui, oui, oui. Mais qui font des images d'art absolument merveilleuses, je trouve, mais surtout qui sont ancrées dans une recherche personnelle. Mmh. Et voilà. Entre autres artistes, son travail m'a pas mal marqué. Alors je pense que photographe plasticien, photographe plasticienne ou photographe auteur, c'est un terme un peu vaste qui me...
Oui, c'est suffisamment large pour...
Qui me convient.
Mmh. Oui, puis de toute façon, bon, souvent, les conflits se font sur des... parce qu'on n'est pas d'accord sur la définition, au final. Et... Tout dépend, si tu prends photographe au sens très large, bah oui, t'es photographe, tu utilises un appareil photo.
Oui,
donc,
voilà.
Mais, point. Oui. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui photographe, c'est plus... ça implique un métier de peut-être plus de prestations.
Il pas... y a des gens qui font les deux, hein, je pense.
Oui, il y a des gens qui font les deux, bien sûr. Bah, aussi parce que quand tu fais des prestations, t'es payé pour, donc
oui.
Très, très directement, tu payes ton loyer avec. C'est plus... Enfin, c'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, c'est...
Mais je pense que ça n'empêche pas de développer un travail perso.
Oui, il y a plein d'artistes qui ont fait du travail commercial à côté.
Ce qui est intéressant, c'est pas de tenter de définir des étiquettes dont on se fout au final. Ce qui est intéressant, c'est de... En fait, quand toi, tu réfléchis à celle que tu te donnes, ça éclaire ta pratique, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est plus comme ça qu'on posait la question que de dire machin, tel truc. Ouais. Ouais. C'est peut-être plus dans ce sens-là.
Et ça me donne une liberté aussi d'exploration. Dans une exposition, est-ce que je vais mettre mes photos avec du texte, avec un objet, avec... Enfin voilà, moi, quand je fais de la recherche, je peux gribouiller, je peux coller des images d'archives...
Alors, j'ai cru comprendre qu'à côté de ton travail de photographe plasticienne, c'est le nom qu'on a décidé de donner après ça, j'ai cru comprendre qu'à côté de ça, tu faisais de la médiation autour de l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, ce que ça t'apporte, ce que tu t'apportes aux gens aussi à travers l'art
Oui.
Que tu présentes
Alors, à côté, je suis chargée de missions artistiques et culturelles. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, j'interviens dans des centres d'art, dans des musées ou dans des écoles. Mmh. Pour des parcours artistiques, des parcours culturels sur des thèmes et des sujets assez variés. La médiation culturelle, c'est être un intermédiaire, être un lien entre l'art et un public particulier. Voilà, donc c'est un public très large, ça peut être un public scolaire, un public adulte, des publics empêchés ou en difficulté, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des TSA, enfin des troubles du spectre autistique, beaucoup de choses. Chacun un peu sa spécialité. Voilà. Donc la médiation culturelle, c'est pas forcément de la photographie, c'est surtout les arts plastiques, mais j'arrive quand même à parler souvent de photos, à faire de la photo, parce que c'est accessible, c'est facile, et puis ça marche bien. Et justement, avec la photo, on peut parler de plein d'autres choses. Voilà, on peut parler de peinture, on peut parler d'art contemporain, on peut parler d'histoire de l'art, on peut parler d'art rupestre si on a envie. Voilà.
Enfin, le lien peinture, photographie, art rupestre, c'est balèze.
Voilà, donc là, dans ce métier-là, le fait d'être artiste soi-même et d'avoir un médium privilégié particulier, ça fait ma particularité en tant que... Alors, je ne suis pas enseignante, hein, mais en tant que personne qui est là pour amener vers la culture, amener à la culture. Donc à la culture et à la pratique artistique aussi. Voilà. C'est comment est-ce qu'on encourage un public varié à avoir une pratique personnelle. Voilà. Donc ça peut être encore une fois de la photographie ou juste de l'art plastique, du dessin, de la peinture, selon l'affinité de chacun avec le médium qui lui plaît. Et voilà, et c'est là que la recherche est, enfin que moi la transmission, l'importance de la recherche prend son sens, quoi. Parce que un élève, qu'il fasse du dessin ou de la sculpture, moi je vais essayer de lui dire, fais voilà, la recherche, des carnets, des choses, de la photo, on colle, on coupe, et puis voilà, on essaie d'avancer vers quelque chose de personnel.
Ce sera le nom de la vidéo. On colle, on coupe, on va faire quelque chose de personnel.
Je trouve que c'est pas mal. Non, je pense que c'est important dans la pratique artistique, qu'elle soit amateur ou qu'on vise un peu plus, de développer vraiment un langage personnel. Voilà. Donc ça peut être juste sur le sujet dont on parle, qui est important pour nous, ou par le dispositif qu'on utilise, qui est important pour nous aussi, ou qu'on trouve particulièrement intéressant. Ouais. À explorer. Voilà.
Et donc, du coup, comme tu as transmis à plein de publics différents, et tu parlais juste à la fin d'avoir un travail personnel, ce qui est ce qu'on essaye tous les deux de pousser les gens à faire, faites un travail personnel. Qu'est-ce que serait ton conseil pour justement aller plus vers quelque chose de personnel pour les gens qui sont. Bon, la plupart de ceux qui nous regardent ont déjà un appareil photo entre les mains.
Oui. Eh ben, c'est d'entreprendre ce travail de recherche, justement, que ce soit en regardant des films, en lisant des livres, de prendre des petits bouts de tout ça, de ce qui vous nourrit, de faire des carnets. Voilà, en fait, il y a plein de gens qui me disent, moi, je veux faire de la photo, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de sujet, j'ai pas de thème. Recherchez, faites de la recherche. Allez vers des choses qui sont un peu instinctives, un peu intuitives, parce que si vous allez vers ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, sûrement, que vous trouverez. Sûrement plus tard. Et le conseil que je donnerais, c'est d'être patient aussi, de ne pas aller plus vite que son travail. Un travail abouti, je pense que ça prend des années, voire toute une vie, avant d'avoir une série complète, des choses qui sont cohérentes, qui parlent, d'avoir un ensemble cohérent, qui parle de la même chose, mais de façon différente, ça prend du temps. Voilà, donc n'allez pas plus vite que votre travail. Prenez votre temps, ça viendra, et encouragez les gens autour de vous à pratiquer de la photo ou autre chose. Hein. Encouragez vos amis, vos enfants, vos parents. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours encouragée. Alors, qui nous a emmenés au musée, qui nous a montré des films, des livres, tout ce qu'on voulait. Et même si elle n'allait pas spécialement... Alors, j'en parle d'une famille d'artistes, même s'il y a quelques artistes dans ma famille. Et en fait, on a une éducation qui a été ouverte à la culture. Et mon petit frère travaille dans l'audiovisuel, d'ailleurs. Il a choisi ces études-là. Donc, on est tous les deux partis vers quelque chose vers l'image. L'image photo, vidéo. Donc, c'est assez intéressant, je pense.
On en profite tous pour saluer la maman de Louise.
Oui, qui aime beaucoup
Bonjour.
Thomas.
Bonjour.
Elle ne voit pas encore les vidéos de Laurent. Je crois qu'elle aime bien les vidéos de Thomas. Donc, voilà.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis que les gens démarrent par la question « j'ai pas de thème », etc. Et en fait, le plus souvent, c'est plus le thème qui émerge du travail que le travail qui émerge du thème. C'est important de le comprendre parce que sinon on commence jamais en fait. On reste chez soi à se dire de quoi je vais parler. Et
j'ai pas de thème, j'ai pas de sujet.
Au lieu de juste de commencer en fait à faire. Toi tu parles de recherche, moi j'aime bien parler de brouillon souvent. Parce que je trouve que ça enlève un poids de. Tu sais, c'est un brouillon.
Oui,
c'est pas censé être réussi en fait. Donc c'est pas grave, ça enlève de la pression.
Il faut se faire des petits exercices. Sortez, prenez une photo d'un mur, essayez de trouver des formes dedans. Est-ce que c'est du noir et blanc, est-ce que c'est de la couleur? Ah bah tiens, du coup, voilà, en une photo, j'ai déjà un petit peu orienté vers un sujet, enfin, des pistes de réflexion. Même si c'est pas un sujet abouti, c'est pas grave.
Mais écoute, merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup, Louise, de nous avoir accueillis.
Je pense qu'il y a plein de choses que les gens pourront retirer de cette vidéo. Je vous mets les liens vers le site de Louise et de tous les photographes dont on a parlé dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller regarder ça au calme. Et puis, voilà, regardez mon travail, parce qu'évidemment, on a parlé, on a montré quelques photos, mais c'est bien aussi de se poser avec. J'encourage ceux qui seront proches d'une de tes expositions futures à venir les voir en vrai, parce que, comme on l'a vu, c'est un objet aussi, donc... On les voit sur internet, c'est bien, mais c'est voilà, moi j'ai vu les tirages en vrai et je peux vous dire c'est pas la même chose quand même.
Même si vous êtes loin d'ailleurs, faites la route.
Même si vous êtes loin, faites la route. En tout cas, si vous êtes pas loin, vraiment, vous n'avez pas les flux. Écoute, merci beaucoup à toi pour cette discussion. Je pense que c'était très intéressant.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous sur laquelle vous pouvez laisser des commentaires. Pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préféré, c'est très important pour que ce format continue. Je vous dis à plus dans le prochain épisode et d'ici là, à bientôt et bonne photo.